Gardez tout ce que vous ne, surtout n'oubliez rien. Hein, si aujourd'hui vous n'avez plus aucun oubli, aucune raison d'oublier ce que vous allez nous raconter. Donc on se retrouve tout de suite dans quelques instants.
D'accord. Merci à vous, à tout de suite.
À tout de suite. Il est 23h sur Europe 1, je vous l'avais promis, Maëlle Assagnier est avec nous pour le journal. Rebonsoir Maëlle.
Bonsoir Roland, bonsoir à tous. Un projet d'accord sur le Groenland, c'est ce qu'annonce Donald Trump ce soir après un échange qualifié de très productif avec le chef de l'OTAN. Le président américain assure avoir obtenu tout ce qu'il voulait concernant le territoire arctique contrôlé par le Danemark. Conséquence, les droits de douane qui devaient concerner plusieurs pays européens, dont la France, dès le 1er février, ne seront pas appliqués. Pause dans la guerre commerciale, pas d'attaque militaire contre le Groenland, des messages positifs estime ce soir le chef de la diplomatie danoise. Le Premier ministre néerlandais se réjouit de voir les Américains et les Européens se diriger sur la voie de la désescalade. L'OTAN promet de lancer des discussions tripartites entre les autorités de l'île arctique, celles du Danemark et des États-Unis, pour garantir, je cite, que la Chine et la Russie ne puissent jamais s'implanter économiquement ou militairement au Groenland. Donald Trump qui s'exprimait à la mi-journée depuis le forum de Davos en Suisse. Plus d'une heure de discours, le président américain a fustigé les politiques européennes en matière migratoire, industrielle et écologique. Emmanuel Macron, également pris pour cible, accusé, je cite, d'avoir voulu jouer les durs à cuire hier au cours de sa prise de parole. Le maire de Nice, Christian Estrosi, fait part de sa profonde colère après la mort d'une jeune femme de 25 ans tuée par balle en début de soirée dans la ville alors qu'elle circulait en voiture. Un bébé se trouvait dans le véhicule mais il n'a pas été touché. Les deux tireurs circulaient à scooter. Ils sont toujours en fuite. L'article fixant les conditions d'accès à la future aide active à mourir rejeté ce soir par le Sénat. Les débats sur la proposition de loi sur la fin de vie vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine, mais le texte est d'ores et déjà vidé de sa substance par la Chambre haute dominée par les Républicains. LR qui ne devrait pas voter les motions de censure en fin de semaine. Il ne serait pas sérieux de faire tomber le gouvernement dans le contexte international actuel, estime aujourd'hui le chef des députés, les Républicains, Laurent Wauquiez. Un peu plus tôt, le vice-président du parti, David Lisnard, appelait pourtant à censurer ce budget qualifié de socialiste. L'association Foodwatch porte plainte contre X afin de faire la lumière sur les rappels de lait infantile lancés par plusieurs entreprises ces derniers jours. La dernière campagne en date concerne Lactalis dans 18 pays à travers le monde, dont la France, où 6 lots de la marque Picot viennent d'être retirés des rayons en raison de la présence potentielle de céréulides, une substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhée et vomissements chez l'enfant. Les cours d'eau devraient encore déborder cette nuit dans le Finistère et le Morbihan, deux départements maintenus en vigilance orange au cru jusqu'à demain. 30 à 50 mm de pluie recensés au cours des 24 dernières heures. Et puis l'Olympique de Marseille battu ce soir à domicile par Liverpool. 3-0 pour les Reds. Match de la 7e journée de Ligue des Champions de football. Le Bayern décroche à l'instant son billet pour les 8e après une victoire contre l'Union Saint-Gilloise. Vous écoutez Europe 1, il est 23h03 et on retrouve Roland Pérez pour la Libre Antenne jusqu'à 1h.
Exactement, 1h du matin et jusqu'à minuit avec vous, puisque vous allez nous quitter à minuit. Vous avez pensé un peu à ce site dont on a parlé hier, à cette jeune femme qui écrivait des lettres d'amour. Vous avez regardé un peu les lettres qu'elle écrivait.
J'ai pas été voir, mais c'est très intéressant. Je vais aller voir de ce
site. On m'en a beaucoup parlé aujourd'hui. On m'a beaucoup parlé de cette jeune fille, de son histoire et de sa passion aujourd'hui et de son métier, d'écrire comme ça des lettres. Alors moi, je n'ai retenu que les lettres d'amour, même si elle écrit aussi des lettres de rupture. Mais je n'ai retenu que les lettres d'amour. Je me suis dit, voilà, c'est un joli cadeau pour l'anniversaire de votre Dulcinée.
Oui, c'est vrai. Mais écoutez, je vais aller voir ça de très près parce que ça m'intéresse.
Après, je ne doute pas de votre plume.
Ah non.
De votre cœur, de votre esprit, de vos mots. Ça, je n'en doute pas. Vous l'avez déjà écrit d'ailleurs, une lettre d'amour à votre fiancé?
Non, vous savez, c'est pas trop dans l'air du temps, mais c'est
des SMS que vous écrivez.
Oui, enfin bon, c'est vrai que c'est plus trop dans l'air du temps, mais c'est très très intéressant et j'irai voir ce site parce que cette histoire m'a beaucoup interpellé aussi, vous voyez.
Bon, ben voilà, j'aime votre côté romantique. On n'en saura toujours pas plus, chers auditeurs, je fais ce que je peux. On se retrouve à minuit. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h.
La Libre Antenne.
Roland Pérez.
L'heure des pros, vous connaissez forcément plus Pascal Pro et vous. Eh bien, ce sont deux rendez-vous que vous pouvez avoir par jour sur Europe 1. D'abord, l'heure des pros, donc en codiffusion avec CNews, de 9h à 10h. Et Pascal Pro et vous, l'après-midi, de 16h à 18h, pour débattre de l'actualité et vous donner la parole. L'heure des pros, de 9h à 10h. Et Pascal Pro et vous, de 16h à 18h sur Europe 1, la radio libre. Il y a des moments où l'on croit que tout est fini. Un amour, une histoire, une famille, un projet. Et puis la vie insiste, elle nous souffle qu'il reste encore quelque chose à tenter. Ce soir, si vous êtes à ce carrefour-là, entre renoncer et recommencer, cette libre antenne est la vôtre. 01 80 20 39 21. Florian et Julia décrochent vos appels. Et Laurent, notre réalisateur, orchestre cette nuit de confidence. Vous pouvez également nous adresser des SMS au 7 39 21. Là, vous êtes très silencieux. Je me tourne tout d'un coup pour voir les écrans pour les SMS. Vous êtes très silencieux. Vous faites précéder vos messages du mot nuit. Vous le savez, ici, on ne juge aucune personne, aucun auditeur. On ne juge pas les chemins, on les écoute. Comme celui de Christian. Christian qui nous a passé un appel, un coup de fil tout à l'heure pour commencer cette libre antenne. Christian a 54 ans. Il est venu nous parler et partager avec nous son optimisme. Pourtant, la vie ne lui a pas fait de cadeau. Alors qu'il avait 49 ans, il va découvrir qu'il souffre d'un cancer de lymphome à cellules du manteau. C'est un cancer assez sérieux. C'est un cancer des lymphatiques. Il va y avoir plusieurs étapes dans la découverte de cette maladie, mais à chaque fois, il va se dire une chose: j'ai une chance inouïe d'avoir découvert à temps ce dont je souffre. Je suis tombé entre les bonnes personnes, dans le bon hôpital, avec les bons chirurgiens. Donc ça va totalement le nourrir et faire en sorte qu'il va continuer à sourire. Pas une seule fois, il va être amer, il va être, pessimiste, défaitiste. Évidemment, c'est les traitements qui vont suivre vont être d'autant plus difficiles que 2 ans plus tard, il va faire un malaise sérieux. Il est chez sa sœur à l'anniversaire de sa petite nièce. Et là, il va être transporté d'urgence. Ce malaise fait qu'il va perdre totalement connaissance. Il va être transporté d'urgence. Et cette fois-ci, il n'est plus dans le confort des hôpitaux qu'il connaissait ou des chirurgiens qu'il connaissait. Et on lui annonce, alors qu'il est à Lyon, qu'il souffre d'une véritable récidive, d'un cancer qui n'est plus logé là où il était. Et nous en étions là, justement, sur le logement de ce nouveau lymphome. Et voilà, vous êtes toujours avec nous, Christian ?
Oui, je suis toujours là.
Alors, nous sommes dans cette chambre d'hôpital, on est 2 ans après la découverte de votre, on va dire, de l'acte 1 de votre cancer, et là, le chirurgien qui est intervenu au moment de votre malaise, vous avez été transporté, vient et vous annonce quoi ? Qu'est-ce qu'il vous dit exactement ?
Eh ben, il me dit, monsieur Contat, donc je suis au service neurologique. Mmh. Voilà. Et là, il me dit, votre lymphome s'est logé dans les méninges. Nous avons contacté votre hôpital à Paris, votre hématologue. J'ai un traitement anti-épileptique de ralentissement du cerveau. Mais j'ai du mal à retrouver la parole, par exemple. Et là, je me dis, ah, ok. Je dis, alors, je suis pas dans la peur. Je dis, c'est une nouvelle étape. J'étais descendu en voiture, donc impossible de remonter en voiture. Donc, la personne avec qui je vis descend, on remonte en voiture. Je suis hospitalisé à la Pitié, de nouveau.
L'hôpital où vous étiez au départ, oui.
Voilà. Et là, ma première question à l'interne, c'est de lui dire, mais d'où ça peut venir ? J'étais sûr que la greffe de moelle osseuse avait fait un rasette du système, et voilà. Et là, le docteur me dit, c'est le mystère. Enfin, il me fait comprendre que c'est le mystère de l'être humain, on a fait un RAZ, mais peut-être qu'il y avait encore des cellules dormantes qui se sont réveillées entre-temps. Et voilà, et donc là, c'est des IRM cérébraux.
Dans quel état psychique vous êtes à ce moment-là? Vous restez optimiste ou vous commencez à être
abattu? Là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. J'ai la chance de connaître tous les étages de l'hôpital. Je suis dans une chambre que je connais. Voilà. Donc déjà, j'ai plus l'angoisse du lieu, des personnes, des infirmières, parce que ce sont des infirmières que j'ai déjà vues, qu'on se connaît. Je vois mon hématologue, mais je suis dans un état de sidération. J'ai une phase de sidération. Encore quelque chose. Pourquoi moi? Mais pourquoi au niveau des méninges? Et là, je mesure
la gravité
et que la vie tient un fil, parce que les méninges, c'est extrêmement petit. C'est entoure le cerveau, Et mon lymphome s'est logé là et qui a déstabilisé
le fonctionnement de votre cerveau,
Voilà. Et là, je me dis, ah ouais, et là, je prends encore plus conscience. Alors, c'est avec le recul que j'ai dit ça, mais au fur et à mesure des jours, je prends conscience de ce fil de la vie qui est très mince et qui peut partir du jour au lendemain.
Oui, de la vie et de la conscience, parce que vous faites un métier où vous faites appel, mais dans tous les métiers, de toute façon, dans toute la vie, on fait appel à notre cerveau. Mais parfois, il y a des métiers plus intellectuels que d'autres. Donc, vous avez un métier où vos méninges, j'ai envie de dire, sont très sollicités. Vous vivez une vie amoureuse plutôt heureuse. Vous avez envie de partager des choses. Et là, vous vous dites que vous ne savez pas quel est l'avenir et comment l'avenir va se dessiner.
Voilà. Et là, je repars donc en chimio. Donc là, chimiothérapie, donc différente de la première, parce que là, il faut aller toucher les méninges. Donc c'est un produit différent qui a plus de risques, parce qu'il est plus puissant, parce qu'il faut aller chercher les cellules cancéreuses au fin fond, dans une partie très minime qui enveloppe le cerveau. Voilà.
Donc on part comme ça. Vous faites des radiations, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle.
De la chimiothérapie. Et là, on me propose un nouveau traitement qui est de prélever des cellules qui me sont propres, de les modifier afin qu'elles aillent attaquer les cellules cancéreuses logées au niveau des méninges.
D'accord, se défendre, la guerre des cellules.
Voilà, c'est la guerre des cellules avec une modification des cellules qu'on prélève. Et voilà. Donc là, on est en octobre-novembre. Voilà. Je refais une crise d'épilepsie un samedi.
Donc ça, c'est des blackouts, les crises d'épilepsie, c'est-à-dire
oui.
que...
Alors celle-ci, elle est entre guillemets légère, parce que je suis donc en voiture, mais je ne conduis plus, je suis passager, je suis avec la personne avec qui je vis, et c'est un samedi, on part, je ne sais plus où, et je fais une crise. Et je me souviens... de m'être réveillé, on était sur un rond-point, les pompiers arrivent, et je me souviens, le pompier me dit Monsieur Comté, quand vous allez, on est en quelle année? Et là, je le regarde, je fais en 1990. Et il me dit, mais je le regarde, et puis voilà, on arrive à l'hôpital, et là, on me met dans les urgences et tout, et puis, et là, la mémoire revient petit à petit, je me dis, mais non, on n'est pas en 90. Mais oui, c'est la magie du cerveau, c'est la magie entre guillemets. Mais voilà, j'étais propulsé, toujours en chimiothérapie. On prépare ce qu'on appelle le traitement CAR-T-cell, qui est programmé courant janvier 2023. Et puis, je refais une crise sévère le 1er janvier 2023. Et là, je me revois poser les tasses sur la table pour le petit déjeuner et me réveiller, je ne sais pas combien de jours après. Et là, j'entends quelqu'un qui me dit « Monsieur, on va vous désintuber ». Et là, j'entends des machines. Et donc là, j'ai fait carrément une crise.
Toute cette évolution difficile, c'est quelque chose qui n'était pas prévisible, où les médecins, vos médecins que vous connaissez bien aujourd'hui, vous ont alerté sur le fait qu'il pouvait y avoir ce type d'effet propre à ce cancer.
Non, parce que c'était pas prévisible. Au niveau neurologique, j'ai compris avec le recul que c'est grâce à cette crise d'épilepsie qu'on a pu me soigner mon cancer à temps. Parce que si c'était développé
d'une
manière...
Vous parlez du cancer numéro 2, le cancer qui s'est logé dans les méninges.
Si il s'était développé très rapidement et d'une manière conséquente, j'aurais eu, à mon avis, un blackout total.
Okay.
Mais ça, c'est a posteriori. Hein. Et j'ai intégré, grâce à un travail psychologique aussi, hein, parce que je suis pas seul, hein, j'ai toute une équipe médicale derrière hein, pour pouvoir être ce que je suis là ce soir en train de vous parler, et que ces épisodes de crise d'épilepsie ont été aussi une chance de mon corps de me dire « Coucou, il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fonctionne pas correctement. » Et que la médecine, avec les technologies du jour, permet d'aller essayer de corriger et de neutraliser ces cellules cancéreuses. Et ces cellules cancéreuses, donc j'ai de nouveau été mis dans une chambre stérile, parce qu'on m'a fait encore une chimiothérapie pour supprimer des cellules et me réintégrer mes cellules. Et ça s'est passé le 23 février 2023.
Voilà. On est depuis, ça va être quoi, depuis 3 ans du coup quasiment?
Voilà, on est à plus, oui.
Près de 3 ans. Donc dans un
le mois,
ce sera...
3 ans, oui. Voilà.
Et depuis 3 ans...
36.
Et depuis 3 ans, ça va mieux? Enfin,
oui,
vous n'avez pas eu de crise?
Oui.
Pas de crise?
Non.
Pas d'épilepsie, pas de blackout, rien?
Non.
Mais bravo, Christian, bravo. Et vous faites, j'imagine, des contrôles, des scanners ou des IRM de contrôle?
Oui, des IRM
réguliers. Tous les 6 mois?
Là, maintenant, c'est tous les 6 mois, oui.
Et à chaque fois que vous sortez de votre IRM ou scanner en vous disant RAS, il n'y a rien à signaler, comment vous vivez les 6 mois qui passent? Vous savourez encore mieux et plus la vie que vous ne le faisiez?
Oui, mais moi, je passe l'IRM et je ne demande pas le résultat tout de suite.
Non, mais vous êtes incroyable, vous.
Je laisse mes médecins lire le compte-rendu. Et
vous leur donnez le temps et vous leur donnez le temps. Mais ils doivent vous adorer, les médecins. Vous êtes le patient idéal.
Mais je ne suis pas un patient idéal, parce que j'ai une relation avec... les personnes, les médecins, aides-soignantes, l'infirmière, et là, ils ont des vies. Et ce qui est...
On est très égoïste quand on est malade. Je sais pas, mais c'est ce qu'on voit autour de nous. Moi, j'ai été malade enfant, mais j'étais pas égoïste parce que j'étais enfant et je m'en rendais pas compte. Mais pour ceux que j'ai côtoyés, les malades, à un moment donné, quand ils sont en proie à des maladies aussi sérieuses auxquelles vous avez été confrontés, on a tendance à regarder sa vie, quoi. On est un peu concentré, un peu sur soi, sur ses douleurs, sur le traitement, sur les autres qui parfois vous ignorent ou parfois ne sont pas à la hauteur selon ce qu'on vit. Et vous, pas du tout. Vous êtes tourné vers les autres totalement. Vous pensez à la vie de votre médecin. Vous vous dites, quand il prendra le temps, il prendra le temps de m'appeler et de m'expliquer. Donc, c'est incroyable. Vous ne cherchez pas tout de suite à savoir, à voir. Enfin, c'est formidable.
Alors, les personnes qui m'accompagnent, les médecins et soignants, c'est vrai que j'arrive à tisser des liens parce que ce sont des personnes qui ont des vies, comme vous et moi, mais eux, ils sont dans le soin, moi je suis le malade, mais j'arrive à discuter avec ces personnes. Par exemple, je me souviens, avec le temps que j'ai passé en salle, dans les chambres stérile, avec des infirmières ou des aides-soignantes, de discuter. Une infirmière me dit « Ah ben, c'est marrant, vous savez que moi je me lève à 4h du matin, je prends ma pétrolette dans la campagne, je vais à la gare RER et j'arrive à... » Voilà, et c'est des vies.
Je comprends tout à fait, je suis un peu comme vous, je me nourris des autres, mais dans votre cas, on se nourrit évidemment, on comprend, on relativise, on s'accompagne, et puis on se dit qu'on a besoin les uns des autres, donc on a besoin de comprendre aussi celui qui est devant nous pour pouvoir mieux se comprendre, et c'est une façon de mieux s'entraider, donc c'est tout ça c'est important, mais vous, dans votre cas, le fait de ne pas vouloir déranger, c'est-à-dire de se dire, alors que vous sortez d'un examen, que c'est important pour vous, que vous l'attendiez, vous espérez de tout cœur qu'on ne va pas vous révéler quelque chose ou qu'il ne va pas y avoir une récidive. Donc on est anxieux, on a envie de mettre un terme à cette anxiété. Et vous, non, vous avez encore en présence dans votre esprit. Ça prouve que vos méninges fonctionnent d'ailleurs très bien, Christian.
Oui.
Mais vous avez encore dans votre esprit le fait de ne pas déranger, de pour respecter la vie de l'autre, et d'autant que vous la connaissez, effectivement, comme vous dites, parce que vous vous y êtes intéressé. Revenons, si vous voulez bien, et si vous nous accordez quelques minutes encore, revenons sur votre relation avec la personne qui vous accompagne aujourd'hui. Cette personne est formidable.
Oui. Ah oui, cette personne est formidable. Oui.
Vous vous dites quoi ? J'ai eu de la chance ?
Oui, j'ai eu de la chance.
Vous vous dites, je mérite aussi. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, je suis une belle personne, moi aussi, et donc je mérite aussi le bien que l'on peut me faire ?
Alors, s'aimer soi-même, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été facile pour moi.
Ouais.
Oui, je suis une belle personne, mais j'en... Enfin, je vais être franc, je ne sais pas si... Moi, je...
Parce que vous vous dites que vous avez de la chance,
c'est
mais vous vous dites pas aussi, mais après tout, j'ai toujours bien agi, j'ai toujours respecté l'autre, je me suis toujours intéressé à l'autre, et donc la vie se charge aussi de m'apporter autour de moi de belles personnes, donc je le mérite peut-être aussi, je ne mérite pas que des galères comme celles que je vis, je mérite aussi du bonheur.
Oui, ah bah ça oui. Oui, je mérite du bonheur, je mérite. Mais c'est vrai que je vois aussi la force du présent. C'est-à-dire que avant, toute ma maladie, je vivais beaucoup dans il faut faire tel. Dans 2 mois, je prévois ci, tel truc. Donc ça a été un travail aussi difficile de pouvoir se projeter à 2, 3, 6 mois. Parce que la maladie faisait... Et du coup, la force du présent, quand je fais, par exemple, un examen médical ou que je fais quelque chose, je vis pleinement le présent. Et je me dis... Je pense pas à le jour qui suit, et voilà. Et du coup, cette force du présent me permet aussi... de vivre des instants...
Et ça vient d'où cette... Parce que c'est une philosophie de vie. Ça vient d'où cette force, oui, de vivre le présent? Parce que c'est pas donné non plus à tout le monde, ça.
Parce que la maladie... Si j'étais la personne précédente avant 2020 où je pouvais me poser des questions sur le futur, mais je vivrais plus. C'est-à-dire, dès que je fais un IRM, dès que je fais une prise de sang pour vérifier l'état des plaquettes, des lymphocytes,
oui,
et tout
mais ça,
ça,
mais, ça c'est
mais
dans
je,
votre...
je vis plus.
Oui,
je
oui
vis
ça, plus, ça, je... vous avez raison, mais vous l'aviez déjà avant, cette force du présent. Donc, c'est la force de vivre du présent, elle vient d'où, cette force de vivre du présent? Là, vous l'avez appliquée à la maladie, et c'est formidable, c'est tant mieux, mais elle vous vient d'où?
Je ne sais pas vous répondre. Je suis franc, je ne sais pas.
Vos parents étaient comme ça? Votre famille était comme ça? Il y avait, on vivait le présent, on ne sait pas ce que demain sera. Profitons du présent.
Oui, je crois, oui. Oui. Ah oui. De mes souvenirs d'enfance, oui. Maman et papa nous faisaient vivre le présent. Oui,
ils avaient une galère hier, ils se disaient que demain ce sera meilleur, et puis voilà.
Oui,
ils étaient optimistes aussi.
Oui, ils étaient optimistes. Ah oui, ils ont... Alors, peut-être que ma personnalité accentue ce train de caractère d'optimisme, mais oui, il y a un terreau d'optimisme, oui.
On a un message de Bernadette, merci à elle d'ailleurs. Elle dit quelque chose de très vrai, évidemment. Le fait d'avoir une attitude positive peut améliorer sa qualité de vie pendant le traitement du cancer. L'optimisme est un atout et cette épreuve change le regard sur la vie. Justement, que vous disent les médecins sur votre optimisme ? Est-ce qu'ils vous confirment que c'est pour le coup un atout dans votre traitement ?
Alors, ils ne le disent pas comme ça, c'est des regards, des réflexions, des « Ah ben, oui, c'est bien, monsieur Comtet », et puis c'est vrai que j'ai toujours de l'enthousiasme quand on me propose, on me dit « Ben voilà, on va faire tel traitement, dès que je comprends, on y va,
allons-y, expérimentons
voilà. ». Ben, expérimentons, de toute façon. Voilà, j'ai la chance de le vivre. C'est-à-dire, j'ai une chance, dans un pays, une chance où,
vous devriez écrire un traité à l'épreuve de la maladie pour donner toutes ces règles, toutes ces choses, la patience, l'optimisme, la gratitude, la reconnaissance, se dire que même dans la maladie, on peut avoir de la chance. On se le dit parfois dans un dépistage, on se dit, il y a le concours de circonstances, ça a été votre cas qui vous a permis de dépister à temps parce que ça aurait pu être dépisté beaucoup plus tardivement et vous auriez peut-être perdu définitivement l'usage de votre œil. D'ailleurs, la vue est revenue de votre œil.
Ah oui, ouais. J'ai pas de séquelles.
Donc vous avez.
C'est marrant que vous parliez d'écrire parce que, alors, dans ma phase, parce que là je suis en phase de reconstruction, de professionnelle, ouais. de transition, de. Voilà, et j'ai le sentiment que je devrais mettre en mots, des mots, et voilà. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à faire, et si quelqu'un peut me donner des conseils, je suis preneur, voilà, parce que j'ai le sentiment...
La bouteille à la mer est lancée, ouais.
Voilà, j'ai le sentiment que j'ai des choses à dire de mon expérience, sans dire que je détiens la vérité, hein. D'accord, je veux pas donner, c'est pas, je ne détiens
non, non,
pas
non,
la
non,
vérité.
C'est votre vérité, mais en tout cas, voilà. Elle marche. Moi, je suis très admiratif, encore une fois, de votre vision des choses, de votre philosophie, parce que ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, en tout cas, est loin d'être simple, et vraiment difficile. Vous avez eu des traitements difficiles, vous avez eu les conséquences de vos affections, quand même, ont été lourdes. Vous avez eu des moments où vous ne savez pas ce que serait demain. Et là, heureusement, ça fait trois ans que vous êtes... la mer est redevenue très calme et je pense qu'elle va le rester parce que qu'on a éloigné définitivement les petites cellules qui dormaient et qui n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Mais je pense que dans votre thérapie, il y a aussi votre comportement, votre conscience, votre optimisme, votre regard. Et je pense que ça fait partie aussi effectivement, comme le disait Bernadette, de vos traitements. C'est aussi, ça fait partie intégrante de votre traitement.
Donc, merci, c'est très gentil.
Vraiment. Et puis, alors, si on a des auditeurs, des auditrices qui ont envie de vous donner, on reçoit parfois des témoignages avec des gens qui écrivent, qui sont soit ils ont créé des blogs, soit des livres, soit en traitant de leur expérience. Peut-être qu'ils auront peut-être envie de partager cela. On a un autre message. Alors, je n'ai pas le nom.
Avec grand plaisir.
On a un autre message qui nous dit des années et des années de recherche dans le cancer et toujours autant de personnes hélas, parfois qui s'en vont, je ne sais plus quoi penser, j'ai perdu tellement de proches. Courage à vous, Christian. Voilà, donc effectivement que la recherche est très importante et elle continue. Dans votre cas, il y a même des traitements expérimentaux qui ont été faits. Cette maladie, elle est connue, ce que vous aviez était extrêmement connu, mais comme ce qui est moins, c'est évidemment parfois l'évolution, les récidives dont vous avez été victime. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se réjouit vraiment pour vous et vous le méritez tellement. Tout le monde mérite d'être guéri, mais votre optimisme fait tellement plaisir, Christian. Vous n'êtes pas départi de cette gentillesse, de cette empathie, et c'est tellement, tellement important. Bravo à vous, Christian. Donnez-nous des nouvelles, que des bonnes nouvelles. Et puis,
avec grand plaisir.
Peut-être qu'il va y avoir un mariage. Vous savez, moi, je suis un fou sentimental après avoir embêté Maëlle tous les
soirs. Pour les lettres d'amour.
Il faut que je trouve quelqu'un d'autre ennuyé. Donc, annoncez-nous un mariage. Je ne sais pas.
Avec grand plaisir, je vous tiens au courant.
D'accord, tenez-nous au courant parce qu'on fera une petite annonce. On pourra s'en parler et on pourra parler de la préparation du mariage. Je me mêle de tout. Hein. Allez, je vous embrasse, Christian. Merci.
Moi aussi, je vous embrasse. Merci à vous bientôt, et merci à Florian et Julia. Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
My Sweet Lord, George Harrison sur Europe 1. On peut être entouré, se sentir seul, on peut être seul et attendre qu'un jour quelqu'un frappe enfin à la porte. La solitude n'a pas d'âge, pas de visage unique, pas de honte. Ce soir, si elle vous accompagne un peu, venez la déposer avec nous. Appelez le 01 80 20 39 21. Florian et Julia sont à l'écoute et Laurent veille sur cette nuit radiophonique avec nous. Et si parler, je le dis, est trop difficile, vous pouvez également nous écrire au 7 39 21. Faites accompagner votre message du mot nuit. Ici, personne, vous le savez, ne reste seul très longtemps. Nous étions juste avant la musique, nous étions avec Christian qui partageait avec nous son optimisme déconcertant, vraiment, et extraordinaire, alors que voilà, depuis 2020, il a été en proie à deux cancers relativement lourds, deux cancers qui l'ont amené à subir des traitements lourds, mais il ne s'est jamais départi du goût de vivre, du goût du vivre du moment présent, c'est ce qu'il nous a dit, c'est ce qui l'a motivé. Il est resté en totale empathie avec ceux qui l'accompagnaient, qui étaient donc des médecins, et ça l'a énormément aidé. Cela fait 3 ans aujourd'hui qu'il est libéré de ses traitements, même s'il fait des contrôles réguliers, et puis peut-être qu'il a envie de mettre des mots, justement, de nous faire partager cette philosophie au travers peut-être d'un témoignage, d'un récit qui serait fort, qui serait puissant, parce qu'il nous livrerait les méthodes pour pouvoir tenir en cas de tempête, comme ça a été le cas. Et on a quelqu'un qui a écrit au 739-21. Je vous dis qu'on les aime, ces SMS, parce que ce sont vraiment des auditeurs qui vous accompagnent, qui accompagnent cette libre antenne et qui nous font partager à la fois leurs ressentis, mais aussi leurs bonnes initiatives. Et c'est le cas pour Christian. On a Annick qui nous écrit. Elle nous dit, est-ce que cet homme serait intéressé pour mettre un mot poétique sur son histoire, son histoire. Et elle nous a donné à la fois son numéro de téléphone et à la fois son mail. Donc voilà, Florian va rappeler Christian. Merci beaucoup Annick. Va rappeler Christian pour lui donner ses indications, et puis on suivra évidemment l'évolution peut-être de ce projet. Bonsoir Sandra.
Bonsoir.
Et alors, bonsoir. Est-ce que Sandra, vous avez écouté, j'imagine, enfin un petit peu peut-être avec intérêt, le témoignage de Christian et cette force. J'aimerais que cette force,
lui dire bravo et commencer par ça justement,
parce que en lisant
c'est beau témoignage pour aider les autres.
En parcourant un peu ce que vous vivez aujourd'hui, Christian, ce que vivent votre fils notamment, ce que vous vivez, eh bien, on a envie de vous donner, on a envie de vous inoculer cette force qu'il a. Pour vous permettre d'aider au mieux votre fils. C'est ce que vous essayez de faire, Sandra.
Je l'ai, mais je ne sais plus comment la manipuler. Comme si j'avais un marteau, et un marteau rond, et qu'il fallait qu'il soit carré pour pouvoir enfoncer la pointe.
Non, il faut surtout, Sandra, il faut surtout qu'un jour votre fils ait envie, lui. On a déjà eu, vous savez, on a eu un témoignage d'une maman. Alors, on va expliquer d'abord, avant que je vous fasse partager le témoignage de la maman qu'on avait eu en ligne et qui était exactement dans votre situation. On va expliquer, Sandra, vous êtes maman de 2 enfants et votre fils, Kylian, lui, est en proie à des addictions, la boisson notamment, et ça perturbe totalement sa vie. Vous l'aimez plus que tout, votre enfant, vous le voyez se dégrader, il vit avec vous, il n'arrive pas à prendre son envol, il n'arrive pas à rencontrer quelqu'un, il a peur, semble-t-il, des jeunes femmes. Il travaille, je crois, avec vous comme tout votre fille, donc vous êtes en famille, mais malgré tout l'amour que vous pouvez lui apporter, les limites, c'est précisément le fait qu'il continue à boire.
Parce qu'on est des mauvais exemples.
Pourquoi vous êtes des mauvais exemples? Pourquoi, Sandra,
vous dites ça? Parce qu'on est des addicts, ils nous voient boire. Enfin, en fait, ils reproduisent ce que l'on fait, et moi je me bats. Il a pas su jusqu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, et après, mais ma fille, elle a pas du tout voulu, donc mais mon fils nous a suivis dans nos addictions, et moi j'ai.
Et votre fille aussi? Vous dites votre fille aussi?
Ah non, justement, ma fille, pas du tout.
Mais vous aviez déjà cette addiction de l'alcool?
Oui, familialement, le jeu de la. Oui, mais il ne le savait pas.
Mais ce qu'on appelle l'alcool mondain ou l'alcool vraiment à forte dose?
Il y avait des moments, oui, ils ont vu des choses, bien sûr. Bien sûr. On a, avec mon mari, on est Harley Quinn, on a sauté en parachute, tout seul, on a son saut chacun, on a fait 11 pays, on est allé jusqu'en Norvège en camping-car avec les enfants, les chiens, les oiseaux qui vivent en liberté à la maison. On est des
originaux.
Des originaux, oui. Et je pense qu'on les a un peu perdus. Enfin, mon fils est un peu perdu. Hein.
Bah oui, mais par contre, on a
une société.
Ça pourrait être une force. Oui, alors vous dites que vous avez une société parce qu'ils travaillent avec vous,
depuis,
vos enfants.
Oui, on a une société depuis 28 ans et ça fait 33 ans que je suis avec mon mari. C'est, voilà, on a une
qu'est-ce
force.
Que, qu'est-ce que fait c'est quoi votre société? Qu'est-ce
non,
qu'elle est l'activité? Vous pouvez pas le dire, d'accord. Okay.
Je dois protéger ma famille aussi.
D'accord. Et donc, oui, vos enfants travaillent avec vous. Et donc, l'exemple, vous pensez que vous avez été un très mauvais exemple. Vous en avez parlé avec lui de ça?
Oui, mais c'est aussi un de ses meilleurs amis un jour qui l'a quitté, je pense aussi à cause des drogues. Hein. Il perd tout le monde et moi, là je change de sujet. Son meilleur ami un jour m'a dit, lors d'une soirée où il était grand et du coup invité et tous les adultes se cachaient, on s'est compris, a dit il vous adore pas, il vous idolâtre. Et c'est trop pour un enfant. Et j'ai compris quand un jour il a dit une femme comme ma mère et ma sœur. Non mais c'est quoi ces critères de merde? Pardon, je suis à la radio.
Non, mais la parole est libre, hein, son grand.
Non. Il a peur des femmes, des filles à cause des réseaux sociaux. Enfin, c'est un enfant perdu et moi j'étais perdue et je n'avais pas tous ces réseaux qui m'endormissaient. Il a perdu 20 000 euros dans les jeux, dans... je souffre pour lui. C'est un enfant qui est rempli de douleur et je ne sais pas comment l'aider. Parce que
Sandra.
Moi, j'ai 53 ans, je continue à souffrir et je commence tout juste à me faire aider parce que ma mère est morte. Ça y est, j'ai enfin rendez-vous chez un psy. Ça y est. Comment je peux aider mon enfant alors que je suis... Je sais ce qu'il va devenir.
Regardez, Sandra, vous avez mis beaucoup de temps comme vous dites,
à réagir.
Pour vous, déjà, je ne parle pas de lui, je parle déjà pour vous. Vous avez mis beaucoup de temps
mais
pour réagir.
Mais si je
ne
m'aide pas, moi, comment je vais l'aider?
Oui, mais vous avez très bien fait, c'est ce qu'il faut exactement faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut ni vous juger d'abord, parce que si vous vous jugez, vous n'arriverez pas à avancer. Vous êtes très consciente.
Ils sont assez grands, je pense, pour le faire.
Oui, et puis vous êtes consciente du fait que votre fils reproduit finalement ce qu'il a toujours vu et ce qu'il pensait, parce que visiblement il a vu que ça vous rendait heureux, Sandra. Il a vu avec votre mari que vous avez vécu...
A vu de la destruction aussi.
Mais est-ce qu'il l'a vu, la destruction? Je ne suis pas sûre qu'il l'a vu.
Oui, il a vu des gestes. J'ai même appelé un jour la police parce qu'il a levé la main sur moi et je suis ostéoporose sévère.
Qui a levé
mon
la main
fils.
Votre fils,
mon
non,
fils.
Mais d'accord, mais je ne parle pas
à cause de l'alcool.
Oui, mais je
pour
parle...
Pour dire les dégâts de l'alcool.
Oui, mais je vois, je ne parle pas de lui, là. Je parle de ce qu'il a vu de vous et de votre couple. Il a vu que vous aviez...
De la bousculade, on va appeler ça.
Il a vu une réussite, matérielle. Une réussite.
Merci beaucoup.
Il a vu cette réussite-là. Il a vu le fait que vous viviez librement. Et personne ne porte de jugement, Sandra. Vous viviez librement. Vous l'avez dit. Vous avez.
J'ai vécu. On a 8 salariés.
Vous avez vécu sans peur. Et même s'il y a des reproches, mais vous avez vécu sans peur. Donc, il a vu des choses qui lui ont plu, qui lui ont parlé. Et donc, vous êtes devenu, avec votre époux probablement, des modèles. Mais dans ces modèles qu'il a façonnés, il a vu aussi tout ce qui n'allait pas, mais il ne l'a pas compris comme des choses qui n'allaient pas. Votre fille, elle, l'a
pas compris. Non, il a vécu comme de la fête. Vous avez
voilà,
compris.
Exactement. Donc, il l'a vécu comme quelque chose qui vous a construit,
facile,
qui vous a nourri, qui a fait que vous étiez heureux. Et il s'est dit, c'est ça les règles, c'est les règles que me montre, et c'est peut-être ça qu'il faut. Donc c'est ça qu'il faut que vous lui expliquiez, c'est-à-dire lui dire en réalité que vous êtes très malheureux.
Il le sait, mais il est trop profond.
Qu'est-ce qu'il sait de votre enfance? Qu'est-ce qu'il sait de votre malheur? Qu'est-ce qu'il sait de vos failles? Mais comment, pourquoi vous
tout,
dites
mais
tout
justement, trop,
il
parce
le sait,
que, mais
il
on
le sait
se
parce
parle
que vous,
beaucoup.
Vous lui en parlez,
on
vous
parle
lui avez
beaucoup.
Dit de ce que vous avez vécu.
Oui, il sait mon enfance douloureuse, il sait mes travers, il sait les travers de son père, il sait...
Est-ce que vous lui dites...
Il sait trop de choses.
Est-ce que vous lui dites...
On est fait trop de travers.
Est-ce
du
que
coup,
vous...
il est...
Est-ce que vous lui dites que en fait, ce qu'il a vu n'est pas la réalité, que ce qu'il croit être une réussite est quand même un désastre personnel, un désastre...
Mais bien sûr, je lui dis même, regarde mes dents. Enfin, si, on parle beaucoup, mais on le laisse trop faire. En fait, on est trop dans la gentillesse. J'arrête pas de lui dire que je vais le mettre dehors parce que je vais en faire un tanguy. Et en fait, je le retiens. Et il se retient lui aussi tout seul. Il a perdu deux fois son permis. Et il m'a dit, tu vois, maman, c'est le karma. C'est que j'étais pas prêt. C'est l'oiseau qui est au bord du nid qui fait, ouah, je vais faire ça. Ah, puis t'as vu, je te dis que j'irai là. Et, ah non, mais regarde, ce que je vais construire est ici, là. C'est mon terrain. Il arrive au bord du nid, il fait, maman, je peux revenir la semaine prochaine et je sauterai du nid la semaine prochaine. On verra mes plans, je les reporte. Il prend scrapping. Mais il a mis le rêve. Je lui ai souhaité Mireille le rêve et d'en faire un. Pour le moment, il a eu mis le rêve, il n'en a pas fait un. Il est malheureux.
Oui, mais c'est sûr qu'il est malheureux, mais il ne le sait peut-être pas qu'il est malheureux. Mais
il ne le sait pas.
Est-ce qu'il a vraiment... Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment envie de s'en sortir?
Oui. Je le sais parce qu'il me ressemble. Mais on retombe toujours à plat.
Vous,
fais de la poterie, d'accord. Je m'arrête. Je fais du macramé, je m'arrête.
Oui, mais vous,
voilà, je commence des trucs et je m'arrête.
Vous, à son âge, vous aviez envie de vous en sortir ou vous aviez envie de continuer? De brûler la vie de mille feux?
Ouais, j'ai fait les deux en même temps. Elle est là la différence. C'est peut-être pas la même époque, justement. Justement, je voulais en venir à ça. C'est pas la même époque. Du tout. Avec ces réseaux sociaux, ces télé-réalités, ça fout l'éducation en l'air. Ils sont pas là pour nous aider, hein, tous ces jeux, tous ces...
Vous reconnaissez, Sandra, que malgré tout l'amour que vous avez porté à vos enfants, et notamment à votre fils, que vous n'avez pas peut-être eu les...
Et à ma fille, de la même manière.
Oui, mais est-ce que vous reconnaissez que vous n'avez pas eu forcément les bonnes attitudes, les bons exemples?
Oui, mais complètement. Mais complètement. Mais je fais quoi maintenant, quoi? Bordel de merde.
Je fais quoi maintenant?
Putain, je suis en train de perdre mon fils.
Non, vous n'êtes pas en train de perdre votre fils. Il est en plus chez vous, donc vous n'allez pas le perdre du tout.
Mais justement, mais je vais en faire un tanguy. Ou je le perds, ou j'en fais un tanguy.
Non, attendez.
Qu'est-ce que je fais? Je le mets dehors pour qu'il grandisse?
Non, attendez.
Tout le monde me dit de faire ça.
Non, attendez. Il a 24 ans, donc rien n'est perdu. Simplement.
Mais je sais qu'il n'est pas perdu, c'est un super gamin. Il a été 7e au championnat de France de gym.
Alors, simplement.
Il a fait 15 ans de gym, tous les jours. C'est un battant, mon gosse. J'ai jamais eu besoin de le lever. Il travaille comme un forcené. Il fait des heures de ouf.
Sandra, vous avez pris le bon chemin et le bon choix en allant consulter un psychologue. Ce psychologue va faire un travail avec vous, sur vous d'abord, et ce qui va vous permettre d'avoir la bonne attitude à l'égard de votre fils. Il faut surtout pas confondre vitesse et précipitation. Je vous disais qu'on avait eu il y a deux semaines, on avait eu une maman dont le fils était plongé comme votre fils dans les addictions, boissons, drogues, cannabis et autres, et même plus grave. Et elle a vécu l'enfer. Et puis le temps a passé, elle a compris juste une chose, qu'il avait fallu à un moment donné laisser son fils toucher vraiment le fond. C'est ce que disent souvent les psys d'ailleurs. Toucher totalement.
Non, il vient de manger 20 000 euros, je vous assure qu'il est au fond.
Mais il n'est pas au fond.
Il a mis dans les bitcoins, ouais, dans les jeux, dans les croyances. Il est triste, il est malheureux, il s'en veut,
mais avec deux verres de whisky, il va l'oublier. Donc ce que je veux vous dire, c'est que...
Oui. Il va encore plus boire.
C'est pour ça que laissez-moi juste terminer, Sandra. C'est juste pour que je fasse profiter de ce témoignage qu'on avait eu. Et cette maman nous a dit, voilà, j'ai laissé mon fils, je le surveillais du coin de l'œil, mais je l'ai laissé totalement tomber. Je l'ai laissé totalement se dégrader, c'est-à-dire au point de plus se laver, de plus sortir, il voulait pas se nourrir, il voulait continuer à boire. Je n'ai pas ni caché les bouteilles, ni... J'ai laissé tout. Je l'ai laissé jusqu'au... Et je l'ai regardé impuissante, et surtout, je souffrais le martyr, parce qu'évidemment, je n'avais qu'une envie, c'était de l'empêcher d'aller plus loin, mais je l'ai laissé aller très loin. C'était un risque. C'était un risque que j'ai pris. J'ai pris un très gros risque. 5 ans plus tard, son enfant est totalement sorti de tout cela. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, parce que je ne connais pas Kylian et je ne sais pas exactement où il en est. Je ne suis pas psychologue, donc je ne peux pas me permettre de vous dire il faut faire cela ou suivre cela.
On le regarde faire, puisqu'il boit avec nous des fois le soir.
Oui, mais ce n'est pas boire avec vous.
Il a 23 ans maintenant, donc c'est devenu...
C'est pas boire avec vous, c'est vous déjà essayer de ne plus lui montrer que vous buvez si c'est possible.
Mais ça y est.
Lui dire que ça c'est terminé, que vous avez été un très mauvais exemple, que vous le regrettez, qu'aujourd'hui vous souffrez de le voir comme ça et vous souffrez de votre échec. Vous pouvez déjà lui dire dans les moments. Et puis consulter Sandra si la personne que vous consultez actuellement est la bonne personne avec qui vous pouvez vous confier. Je pense qu'elle va avoir les bons conseils, les bons mots, les bonnes attitudes à avoir. Moi, je vous ai livré le témoignage de quelqu'un qui a été plongé, d'une mère de famille qui était plongée exactement comme vous et qui a pu sauver son fils, mais à quel prix? Et encore une fois, peut-être que ce qui a été fait pour l'un ne vaut pas pour l'autre. Donc je le dis avec beaucoup de pincettes. Donc vraiment, il faut vraiment que vous puissiez être accompagné. Alors on a des messages pour vous.
Oui, parce qu'il n'a pas d'amis. Enfin, il a perdu tous ses amis, alors que c'est un garçon génial. Mais je crois que c'est parce qu'il a montré à chaque fois qu'il se droguait, hein, je pense, et qu'il buvait trop. Et il est tout seul et il a passé toute sa vie enfermé. En plus, on habite à la campagne. Et il est addict aux jeux, alors qu'il n'avait pas droit quand il était jeune, dès qu'il a eu droit à la télé.
Toutes les addictions vont ensemble. Alors, on a un premier message qui vous dit surtout ne pas culpabiliser Sandra. Je connais pas mal de jeunes qui boivent alors qu'aucun de leurs parents ne boivent. Donc, cela ne veut rien dire du tout. Le problème, c'est la société d'aujourd'hui. C'est ça le problème. Arrêtez de culpabiliser. C'est vrai qu'il faut déjà arrêter de culpabiliser pour mieux accompagner votre fils. On a Églantine qui vous dit, j'écoute le témoignage de Sandra, son fils m'interpelle par rapport au TDHA. Avec propension aux addictions. Un bilan est-il possible? Est-ce que vous avez fait faire un bilan?
Oui, moi j'ai demandé un bilan psychiatrique pour moi et j'ai rendez-vous en visio le 4 février. C'est comment s'appelle cette demoiselle?
Elle s'appelle Églantine. Alors c'est un bilan également pour votre fils qu'il faudrait faire, bien sûr.
Bien sûr, mais Églantine. Il ne veut pas, donc je passe par moi, comme vous avez dit. Parce que j'en suis sûre qu'on est tous les deux dans ce problème.
Bernadette nous dit, Sandra, dites-vous que vous pouvez l'aider en lui apportant votre soutien, mais dans certaines limites, vous pouvez vous faire aider par le CSAPA, c'est le Centre de Soins d'Accompagnement de la Prévention, et on a un numéro de téléphone si vous voulez, le 0, alors attendez, je mets mes lunettes parce que c'est de loin et que... De loin, je ne vois pas très bien à l'écran. 0-980-980-930. 0-980-980-930. Merci à Bernadette.
Merci beaucoup.
Voilà, je pense, Sandra, vraiment...
J'aurai l'enregistrement, donc j'aurai le numéro.
Vous n'avez pas le stylo à côté de vous?
Non.
Non, d'accord.
Je suis toute seule dans le noir, là.
Bon, d'accord. Votre fils est où, là?
Il est passé à côté de moi tout à l'heure, il a fait un sourire et il est reparti.
Il n'aurait pas envie.
Parce que son père a dit que je passais, je pense qu'il est en train d'écouter.
Il n'aurait pas envie de nous parler, Kylian?
J'ai voulu tout à l'heure, mais il n'est plus là, donc...
Bon, ben, vous pouvez lui donner notre
c'est
numéro,
dommage.
On peut parler avec lui aussi.
À chaque fois, il me dit oui, puis à chaque fois, on ne peut pas l'emmener quelque part. Mais moi, j'ai eu quelqu'un au standard qui a été génial.
Il est asocial, il a.
Non, du non. tout. Je pense que il est solitaire et malheureux. Donc les deux faisant peur, on pourrait croire qu'il est asocial.
Alors que pas du tout. Il est malheureux. Pourquoi?
Ben, j'aimerais pas que ce soit ma faute. Mais il veut pas crever l'abcès avec un psychiatre ni un psychologue. Donc, et je crois qu'il porte la douleur familiale. Vous savez, ce grénon dit, la douleur de la mère. Moi, j'ai été prise en otage, ma mère, elle est partie en boîte, elle n'est jamais revenue. Mes grands-parents m'ont enlevée, la police est venue me chercher. J'ai été prise en otage, on m'a tiré dans la tête du mec. Quand je parle comme ça, j'ai l'air d'une...
Non, mais encore une
fois... Enfin, il m'est arrivé tellement de choses que... c'est pas facile quand on n'a pas eu de vraie maman. Mm-hmm. Et comme j'ai la plus belle des belles-mères, mais on n'a quand même pas sa maman, de devenir propre mère et d'appeler sa mère et qu'elle te refuse. Heureusement que j'ai eu ma belle-mère qui m'a donné ce putain d'équilibre dont je manquais cruellement.
Et comment s'entretient ?
C'est grâce à elle que j'ai pu élever mes enfants, parce que ma mère est une infirmière incroyable que j'ai perdue quand je vous ai appelé. Mmh. C'est pour ça que j'étais en train de pleurer dans ma voiture et j'ai entendu le témoignage d'une maman qui était fusionnelle avec sa fille et que finalement...
Mmh. Sa fille ne lui parle plus aujourd'hui. On a Églantine qui est revenue vers nous. Alors elle dit oui aussi, la maman doit au TDAHA, elle doit aussi souffrir de cela. Je me reconnais, le diagnostic m'a sauvée. Voilà ce qu'elle dit. Donc il faut vraiment le faire.
Oui, parce qu'on m'a déclaré bipolaire et je n'ai jamais sombré dans le dark. Je crée. Enfin, j'ai tout du. J'arrive pas à. Quand je me mets à ranger, déjà vous avez vu, je parle vite. Quand je me mets à ranger, je vais faire un peu de linge, et puis après, hop, tiens, un peu de vaisselle, hop, tiens, un peu de balai, et je tourne en rond dans ma maison et je finis par faire les trois.
Oui, vous êtes hyper active, ouais.
Oui. Alors, et mon fils aussi, il a ça.
On a Tim. Tim dit, chère Sandra, je prie pour vous et Kylian et toute votre famille, Dieu vous aime. Bon courage.
Ça, c'est ma maman qui me parle d'en haut.
Ben, peut-être, il faut le voir, oui.
Merci beaucoup.
Et on rappelle, il y a un autre auditeur qui nous rappelle que la TDAHA, c'est des troubles de l'attention avec hyperactivité, et c'est aussi, et c'est aussi génétique, on nous dit.
Oui, mais j'en suis persuadée. Et moi, on m'a déclaré bipolaire pour une action, parce que je me suis fâchée, et puis après j'ai dit pardon. Et là, clac, on vous met dans une case. Et moi, j'arrête pas de lire, j'arrête pas de dire à mes enfants que le pouvoir, le savoir est au bout de leurs doigts au lieu des conneries. Et maintenant, j'utilise beaucoup ChatGPT pour ma société et franchement, pour la facturation, pour la planification. Quand ma fille elle est en train de bosser dessus, je peux vous dire que vive la génération future, parce que l'IA, faut pas oublier que c'est la sixième extinction. Hein. Donc si on n'en profite pas maintenant, parce qu'on est la génération la plus heureuse depuis qu'il a été inventé, enfin, nous a été donné au peuple.
Ouais, mais regardez, elle ne résout pas tout, parce que cette génération aussi, elle souffre de ce que vous disiez, de ces addictions qui sont suscitées, évidemment, aujourd'hui, par les jeux en ligne, par ces second écrans, comme on les appelle.
Qu'ils soient, même des choses intelligentes. Google, vous savez combien il y a de fuseaux horaires en Russie?
Ben c'est bien, vous...
Mais parce que quand je vois une question ou un film, je tape sur Google et il y en a 11. Mais j'apprends, parce que je m'intéresse à tout. Dès que je regarde un film, je fais pause. Quand je regarde l'histoire, j'ai appris plein de choses.
Sandra, on va pas faire
pourquoi
un concours.
Pourquoi les jeunes, Sandra, on leur apprend pas ça?
Sandra, on va pas faire un concours de culture générale sur la libre antenne. Juste une question, Sandra. Quelles sont les relations de votre fils et de son papa?
Copain. Moi, je baisse les bras.
Votre mari, le papa de Kylian, ne porte pas de jugement?
A peur. Oui, mais il ne sait pas comment faire. Donc, il est bêta.
Il baisse les bras.
Et c'est un super papa. Hein. C'est le pilier de la famille. Ça fait 33 ans. C'est un super papa. Mais c'est un mauvais correcteur. Enfin, comment dire il ne veut surtout pas ce rôle.
Et vous pensez que l'argent a un peu tout foutu en l'air dans votre vie? La réussite matérielle a pu parfois encourager tout cela? Ou pas?
Eh bien, yin yang, les deux en même temps. C'est-à-dire que ça nous a fait vivre des voyages extraordinaires. On a un camping-car. On a fait faire 11 pays à nos enfants. Tous les étés, ils ont été avec nous. On a fait faire des choses à nos enfants. On a même emmené Kylian, qui est trop petit, jusqu'en Belgique pour qu'il ait le droit de faire des montagnes russes, parce que en Belgique, c'était 1m20 au lieu de 1m40. On est des fous furieux, mais gentils.
Oui, vous êtes toujours...
Bah oui, on leur a fait faire de la via ferrata.
Vous leur avez montré que tout était possible. Donc,
ils ont
évidemment
fait des sauts en parachute. Ils ont fait, à 11 ans, du saut à l'élastique. Mais non, il n'a pas peur, mon fils.
Ça va être, hélas, on va devoir se quitter. Les informations de minuit arrivent là dans quelques secondes. Sandra, donnez-nous des nouvelles et s'il vous plaît, vraiment, continuez. Faites le diagnostic de TDAH dont on parlait avec Églantine. Et puis surtout, continuez votre thérapie.